NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cet épisode vous est présenté avec la participation de Numéricable et de la boutique NoWatch.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juillet 2011 et c'est l'épisode numéro 64. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et je suis, comme toujours pour ces émissions dites classiques, avec Yann et Jeff. Enfin, avec Yann, c'est un petit peu plus rare en ce moment, mais aujourd'hui il est là, donc on en profite. Comment allez-vous, messieurs ?
Écoute, ça va super bien. Je salue nos auditeurs, également la chatroom qui est avec nous. Pour cet enregistrement, ça fait super plaisir. Désolé de ne pas avoir être.
Non, être mais cherche pas à te faire excuser. Cherche pas. On t'en veut.
Je voulais vraiment pas.
Jeff, tu vas voilà. Bien aussi?
Ça va très bien. C'est le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance américaine. Donc, Happy 4th of July à tout le monde.
Et donc, si on comprend bien, tu fais des feux d'artifice, tu vas manger des hamburgers et tu vas uploader des virus dans des vaisseaux aliens. Référence à...
Voilà, sauf les hamburgers, enfin les hamburgers sans bonne, les feux d'artifice c'était hier soir, et le plot est en train de se faire.
Oula, tu vois les virus a commencé et tu t'es mis à avoir un son bizarre tout à coup.
Je suis de l'autre côté de la lune, c'est normal.
Voilà, exactement. Eh ben écoutez, on va commencer assez vite parce que Jeff, tu nous disais que en raison des célébrations, et c'est bien compréhensible, tu as une petite heure pour être avec nous. Si jamais on dépasse, tu seras bien sûr excusé quand tu disparaîtras. Et je veux juste dire, remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires sur notre épisode spécial Fanboys, l'épisode qui a été diffusé pendant que j'étais moi-même aux États-Unis. Donc, merci à tous ceux qui ont réagi. Généralement, les réactions étaient plutôt très positives, souvent un petit peu amusées, mais je pense qu'on a en tout cas exploré le sujet et passé un bon moment ensemble, ce qui est le plus important. Donc, merci à tous ceux qui ont réagi sur le blog et ailleurs. Ça a vraiment été sympathique de voir toutes vos réactions. N'hésitez pas à continuer à réagir si vous avez d'autres choses à dire. Je ne sais pas si on peut arriver au bout de cette discussion. C'est sans doute difficile. Mais bon, en tout cas, on a essayé. C'est déjà, ça a déjà un minimum de mérite. Bonjour aussi à la chatroom qui est avec nous. Certains qui nous écoutent depuis le premier Azeroth.fr, comme Dylan. Merci à vous tous. J'espère que vous aurez des réactions pendant l'émission. Surtout que, en fait, il y a un événement extrêmement important qui s'est passé ce dernier mois en fait, mais c'était juste la semaine dernière. Je vais vous dire très honnêtement, pendant toute le mois pendant lequel on n'a pas fait l'actualité, donc puisqu'on a sauté un épisode avec l'épisode spécial, je me disais bon, il y a quand même pas énormément de choses dont on pourra parler, il y a pas de grosses annonces, il y a pas, ça risque d'être un épisode un petit peu fade.
Et puis Google finalement, entendu.
Google m'a entendu. Et la semaine dernière, ils ont sorti Google Plus. Alors il y aura d'autres choses dont on va parler aussi. Je sais qu'il y en a certains qui se désespèrent déjà, certains qui suivent l'actualité assidûment, qui se désespèrent de voir qu'on ne parle le plus que de Google Plus dans tous les podcasts et sur tous les blogs. Mais finalement, c'est assez normal parce que le service est très important et très intéressant. On parlera un petit peu d'autres choses, effectivement, comme je le disais. Mais une première partie de notre émission sera consacrée à Google+. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une petite description du service et de ce qui s'est passé. Et ensuite, on rentrera dans une description, enfin dans une discussion entre nous pour savoir ce qu'on en pense et ce qu'on en a retenu. Alors, la semaine dernière a été révélé et mis à disposition de quelques blogueurs influents Google+, qui est ce service de, enfin ce réseau social développé par Google. Sans grande annonce et sans explication et sans rien, ils l'ont juste livré à la sphère technophile, comme j'aime l'appeler. Et ils l'ont ensuite étendu un tout petit peu, quelques jours après. Mais, alors, je dis une chose d'abord, avant tout. personne n'a d'invitation, donc c'est pas qu'on veut pas en donner, c'est que ils ont eu un tel succès que finalement ils ont été obligés de fermer les invitations, donc personne n'en a. Si vous envoyez sur eBay, il y en a qui sont en vente, c'est une mini arnaque parce que personne n'a d'indication, donc... Bon, désolé de vous décevoir déjà comme ça de but en blanc. Ils vont ouvrir petit à petit le service un petit peu plus. Bon, ceci dit, hein, j'ai déjà évité une cinquantaine de commentaires sur le, de commentaires similaires sur le blog. Google Plus, c'est quoi? Quand vous, je vais essayer de vous expliquer pour ceux qui n'en ont pas encore accès un petit peu à quoi vous attendre sans que vous n'ayez accès. Vous faire une image un petit peu de ce que va, ce que vous allez voir quand vous viendrez sur Google Plus la première fois. Alors, première chose à dire, c'est que Google Plus est étonnamment similaire dans l'interface à Facebook, à un niveau, de base. C'est-à-dire que vous avez votre flux au centre de l'écran, une série d'options sur la gauche et une série d'options sur la droite, et l'essentiel de votre activité va se situer sur le centre de l'écran, avec un module en haut pour mettre une nouvelle mise à jour, un nouveau statut. Alors déjà, à la base, c'est plutôt la même réflexion superficielle que Facebook. Ceci dit, quand on plonge un petit peu dedans, il y a quelques différences fondamentales. Je vais essayer de les énumérer rapidement. Et vous deux, hein, Jeff et Yann, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à m'interrompre en pleine lancée parce que j'ai tendance à partir dans des monologues interminables. Ok ?
J'y compte bien.
Ok. Alors, première chose qui est intéressante, c'est que c'est ce système de cercle. Le système de cercle, vous avez en haut de votre page quatre petits endroits où vous pouvez aller, l'accueil, les photos, votre profil ou les profils d'autres personnes et les cercles. Les cercles, c'est ce qui vous sert à suivre des gens. C'est-à-dire que vous allez trouver des gens et vous ne pouvez pas simplement les suivre de manière unique. Il faut forcément les placer dans un cercle. Alors au départ, par défaut, vous avez vos cercles famille, amis, collègues, etc. Vous pouvez bien sûr en créer, selon vos besoins, différents cercles. Et vous, pour suivre quelqu'un, vous le placez dans un cercle. Et cette action va faire que vous allez voir ses mises à jour, mais par contre, ça n'est pas réciproque, contrairement à Facebook. Donc lui ne va pas automatiquement être ami avec vous, il n'a pas de demande d'acceptation d'amis, vous le suivez simplement un petit peu comme le système de Twitter, donc c'est un suivi qui n'est pas réciproque. Ensuite, évidemment comme vous l'aurez compris, il y a plusieurs cercles, vous allez mettre différentes personnes dans différents cercles, et quand vous revenez à votre page d'accueil, vous allez pouvoir sélectionner le cercle que vous voulez regarder. Donc, le flux de mise à jour va être différent en fonction de si vous regardez le cercle ami, le cercle famille, le cercle collègue, etc. Et à la base, ça change un petit peu la philosophie de conception de ce réseau social parce que il part du principe que vous allez avoir différentes centres d'intérêt, différents cercles sociaux, et vous n'allez pas interagir de la même manière avec tous ces cercles sociaux. Moi, j'ai fait un article sur mon blog sur cette fonction de cercle parce que j'ai trouvé qu'il y avait un aspect qui était particulièrement intéressant, parce que jusque-là, c'est plus ou moins des groupes classiques avec une interface facile à prendre en main, mais c'est plus ou moins des groupes classiques. Là où ça change un petit peu des groupes classiques, c'est que vous pouvez aussi envoyer une mise à jour uniquement à un cercle. Et l'idée, il y a un tout petit bug, mais à terme, ça sera comme ça. L'idée, c'est que si vous envoyez une mise à jour uniquement à un cercle spécifique, les personnes qui ne sont pas dans ce cercle ne pourront pas la voir. Donc, ça vous permet, en fait, pour moi, c'est une évolution qui est aussi importante que celle du suivi réciproque de Facebook au suivi non réciproque de Twitter. Ce passage-là était très important parce que ça a transformé l'idée qu'on se faisait d'un réseau social. Et aujourd'hui, ce suivi qui nous permet à la fois de sélectionner les gens qu'on va voir et les gens à qui on va parler n'existe pas dans d'autres réseaux sociaux. Et c'est une vraie force de Google+. Je pense que quand on l'utilise, on comprend encore mieux pourquoi c'est aussi important dans la conception du réseau. Un autre aspect, et je vais me retourner vers mes camarades une fois que j'aurai parlé de cet autre aspect, un autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est le système de Hangouts. Et les Hangouts, c'est des bulles en français. C'est un système de vidéoconférence limité à 10 participants. Hein, c'est pas un truc complètement public encore, mais c'est un système de vidéoconférence où on peut créer cette vidéoconférence et la limiter à un cercle public ou à un cercle privé, un cercle défini. Et jusqu'à 10 personnes peuvent vous rejoindre. Ça affiche toutes les vidéos des gens qui participent en bas et ça affiche en gros en haut la vidéo de la personne qui est en train de parler. Et on peut imaginer à terme, alors déjà ça fonctionne très très bien, c'est vraiment une idée qui a l'air basique mais qui fonctionne vraiment très très bien dans son implémentation. Et quand on imagine le potentiel que ça peut donner, c'est-à-dire, bon, je précise, on peut par exemple suivre une vidéo YouTube tous en même temps. Une personne la regarde et les autres peuvent la regarder en même temps, choisir de la regarder en même temps. Et ils vont tous suivre la même vidéo et la commenter en direct. Et on peut imaginer faire la même chose pour la musique, pour des jeux, pour des outils de travail, des documents, etc. Et donc, il y a une énorme, un énorme potentiel là-dedans aussi. Il y en a d'autres, mais j'ai déjà parlé presque 7 ou 8 minutes. Donc je me retourne vers mes deux camarades, peut-être en commençant par Yann. Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que j'ai exagéré ou qu'est-ce que tu penses de ma description et qu'est-ce que tu penses de Google Plus ?
Bah écoute, non, je pense que c'est une description assez claire du service qui est proposé par Google. Bon, effectivement, pour simplifier les choses à l'extrême, on dira que c'est le Facebook de Google avec quelques bonnes idées piquées à Twitter dans l'opération. C'est une interface très claire, très très fluide. On voit l'efficacité de Google, des choses où on avait l'impression qu'il fallait avoir un doctorat pour activer une fonction sur Facebook. Là, c'est devenu très très simple. Des choses aussi simples que par exemple supprimer son profil sur Facebook. Je rappelle qu'il est absolument impossible de supprimer son compte, on ne peut que le désactiver. Exporter ses données, alors il y a une tentative de Facebook mais c'est pas super clair. Là on a vraiment une interface claire, nette, précise, qui permet de partager beaucoup avec ses amis, de créer donc différents cercles d'amis en fonction des affinités qu'on a avec certains. Je partagerai des choses avec Patrick, mais je partagerai pas forcément les mêmes avec ma femme ou quoi que ce soit. Donc on créerait différents cercles comme ça. Moi, alors bien évidemment, j'ai forcément des critiques à émettre, mais c'est vraiment très subjectif. Hein. Ouais. Mais quand j'ai vu les différentes vidéos de Google Plus, j'ai l'impression encore qu'on pousse beaucoup cette idée de sécurité et de confidentialité des informations que vous publiez. Vous créez des cercles et vous faites le fait d'avoir des cercles vous garantit entre guillemets que ce que vous allez publier ne sera pas visible par les personnes qui se trouvent dans les autres cercles. Et cette fausse
ça, il faut
sécurité,
pas, ouais, il faut pas tomber dans ce piège-là. Effectivement, voilà. C'est tout ce qu'on met sur Internet sera de toute façon public, quoi.
Enfin, exactement.
C'est pas que ça sera public, mais il faut partir du principe que ça pourrait être public. Et si on pense que on serait pas prêt à affronter le fait que ça soit public, faut pas le mettre, quoi.
Exactement, exactement. Et donc je veux vraiment mettre en garde les gens. C'est vraiment un service formidable et je pense que Google est bien mieux parti qu'avec l'expérience qu'ils avaient fait avec Buzz. Donc c'est vraiment un service très très solide. C'est juste voilà par rapport à cette illusion de sécurité des informations qu'on partage, je suis un petit peu sceptique. Et juste une dernière chose, j'attire également l'attention sur le fait que quelque part ça permet, enfin ce Google Plus permet à Google de savoir exactement avec qui on est en contact, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce que nous recherchons. Ils ont annoncé par exemple Sparks, qui est un module de Google Plus qui permet de faire des recherches et de rechercher donc des choses qui coïncident avec
nous, des centres d'intérêt.
Donc ce sont tout un tas d'informations qu'on est en train de façon totalement transparente de fournir à Google, qui leur permettent de mieux cibler les publicités, de vendre encore un meilleur produit aux annonceurs.
Ah bah c'est le principe du social graph, hein. C'est pour ça qu'ils en voulaient une part, c'est certain.
Exactement. Donc voilà. Ouais. Faites attention également à ça.
D'accord. Jeff, tes impressions?
Donc mes impressions, j'ai pas mal tweeté depuis hier.
Oui,
parce que j'ai rejoint Google Plus hier.
Une chose qu'on n'a pas dit, c'est que le fameux bouton plus 1 qui avait un petit peu commencé à s'intégrer dans Google ces derniers mois est est complètement intégré à Google Plus et c'est le like de Google Plus en fait.
Voilà, tout à fait. Et donc je pense que clairement, là où il y a encore une semaine on disait Google ne comprend rien au social, je pense qu'on peut la boucler sur ce sujet-là, puisque l'implémentation qu'ils ont mis devant nous, devant nos yeux, qui sont maintenant enamourés, ébahis de Google+, je pense, est un petit peu un espèce de mélange de Facebook et de Twitter avec quelques accents de FriendFeed, quelques fonctionnalités d'Instagram, le plus one qui est donc le Facebook like, et en fait c'est une implémentation qui marche quand même pas mal du tout pour un premier G, c'est très impressionnant. Mais j'ai pointé dans ton commentaire sur le rendez-vous tech, enfin ton nom sur le rendez-vous tech, un article de Stephen Levy de Wired qui donne à peu près 6 ou 7 pages de background sur le projet, puisque ça fait à peu près un an que le projet a été lancé. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à tous les autres projets de Google qui étaient, on va le développer sur nos 20% et puis on va mettre une petite équipe et puis chacun va faire ce qu'il va vouloir, il y a eu un espèce d'appel d'un des ingénieurs les plus anciens de Google, qui est maintenant patron des opérations, pour dire on va arrêter les conneries et il faut peut-être qu'on se mette sérieusement à développer un truc social qui tient la route, parce que sinon on va se faire bouffer par Facebook.
D'ailleurs, on avait raconté que Larry Page a conditionné 20% des bonus de toute la société au succès de Google dans le cadre social.
Dans le social, absolument. Et donc ils ont mis en place un tag team, donc un commando de gens autour de ce projet, qui était mené par Bradley Horowitz, qui est en fait un de mes très bons copains. Le Gus a pris quasiment parmi les meilleurs ingénieurs de la boîte. Il a fait rentrer des gens externes, dont des designers, de manière à créer en fait une réelle expérience utilisateur qui va à l'encontre de ce que croit Google, qui est on va pas ajouter de fioritures, parce que chaque fioriture rajoute des millisecondes. Ouais. Et donc, la première chose que je note, c'est que Google, en fait, c'est un petit peu violet, en quelque sorte, pour sortir de leur sentier battu et de faire complètement différemment des autres projets, pour sortir Google+.
Ouais.
Et plutôt que de dire, on sort plein de projets au-dessus de la plateforme, Google+ va avoir, d'après ce que j'ai compris, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est 10, 20, 25% de ce que Google+ comprendra in fine. Et donc, ça, c'est assez impressionnant.
Bon, mais attendez une seconde. Là, je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Vous êtes bien gentil avec toutes vos histoires de Google a tout compris, Google a réussi son coup, Google est merveilleux. Mais on avait quand même deux histoires qui ont marqué récemment, Wave et Buzz, qui étaient des essais genre Google arrive avec ses gros sabots et ils vont tout révolutionner dans le social d'une part, dans l'email de l'autre. Ils sont plantés comme des gros éléphants bourrés. Et c'est trademark ça. Et voilà quoi. Donc Google, moi je m'en méfie. Ils ne comprennent rien au social. Pourquoi est-ce que Google Plus devrait être différent? Tous les technophiles, enfin les blogueurs qui se la racontent poète sont en train de me dire ouais c'est génial, alors que le commun des mortels n'y est pas. Pourquoi est-ce que je devrais plus croire en Google Plus que les deux fois où ils m'ont largué, déçu, épleuré sur un trottoir,
humilié
avec Buzz et Wave? Qu'est-ce qui fait que Google
Plus
est différent?
Parce que Buzz c'était de la daube et Wave c'était de l'hyper daube, c'est tout. Et je pense qu'on en a parlé au moment. Au moment quand on a fait ces commentaires-là, désolé, on a un coup de fil. Je croyais pas du tout en Buzz et Wave, j'ai jamais compris comment l'utiliser. Et donc là où les gens disaient c'est la prochaine étape, c'est le prochain truc, c'est le machin, ça je suis désolé, mais c'était absolument pas le cas. Pour moi en fait,
moi j'y croyais un petit peu à Wave. Hein. Moi je me disais Wave c'est intéressant, ça a du potentiel et tout. Donc, du coup je me. Mais moi je crois à tout. Moi on me file un truc, je me dis ouais vas-y c'est super top cool. Bon. Pardon, mais on continue.
Eh ben non. Buzz, c'était au bout de 3 minutes, tu te dis c'est de la merde.
Ouais, Buzz, je suis d'accord. Buzz, c'était de comprendre.
Tu te dis que t'es pas sur la même planète que les Australiens qui l'ont conçu, et donc tu éjectes. Alors que en gros, depuis que j'ai commencé à l'utiliser ce week-end, j'ai dû passer 4 à 6 heures dessus, à voir comment ça fonctionnait, à interagir avec, à le tester, à participer en fait. créer mes cercles et tout. Et ce matin, j'ai dû passer 2 heures dessus. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant, parce que c'est différent, parce que c'est une implémentation qui répond. En fait, pour moi, c'est ça que je note. C'est il y a quelques fonctionnalités dedans que je souhaite vraiment que Facebook et Twitter implémentent. Mmh. Du genre la possibilité d'éditer ce que tu vas poster.
Ouais. À vrai dire, bon, d'une part, je maintiens que bon, Buzz, c'était complètement ni fait ni à faire. Wave, je maintiens, comme on le dit dans la chatroom, qu'il y avait des choses intéressante dans Wave et que l'implémentation était pas parfaite mais qu'il y avait quand même des concepts très intéressants et ça je suis d'accord. D'accord, bon, il n'est pas d'accord. Mais pour ce qui est vraiment surprenant à vrai dire, plus que l'analyse du produit en lui-même pour Google+, c'est à quel point les réactions ont été différentes, non seulement des autres projets de Google, comme tu le dis Jeff, mais des lancements de projets en général, c'est-à-dire que ces derniers temps, on a souvent des projets sur lesquels les gens sont plutôt tièdes. Je crois que l'enthousiasme maladif d'il y a un certain temps, c'est quand même un petit peu tari pour tous les projets et les produits de l'univers du tech en général et du web en général. Et là, même parmi les gens qui étaient sceptiques, tous ceux qui l'utilisent sont intrigués, plutôt enthousiasmés dès les premiers instants et ensuite se disent quand on revient sur Facebook a l'air confus, un petit peu trop, il y a trop de choses un petit peu partout, on s'y retrouve moins bien, c'est moins beau, c'est moins clair et c'est tout le monde se met à passer plus de temps sur Google+, alors qu'il y a peut-être un petit peu l'enthousiasme des débuts aussi, mais clairement, sur les autres produits de Google, par exemple, l'enthousiasme n'était pas aussi fort. Et à tout ça, il faut ajouter la grosse parenthèse que ça fait même pas une semaine qu'il est sorti. Donc évidemment, tout ça peut exploser. Mais je pense que tout le monde s'accordera à dire que, en tout cas pour un début, c'est un excellent début et il y a un très grand potentiel. Et ils ont réussi leur début. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se planter ensuite. Ça veut certainement pas dire qu'ils vont remplacer Facebook. D'ailleurs, c'est pas nécessaire ni obligatoire. Enfin, c'est pas du tout obligatoire. Hein. Ils peuvent exister de leur côté en parallèle de Facebook et Twitter, mais ils ont réussi leur lancement. Ça, c'est. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est indéniable.
Oui, et il y a pas mal de gens qui font des commentaires, parce que t'as toujours plein de gens qui se découvrent des spécialités de social media, marketeurs, experts, machin, etc. que bah trois ans après. Google est complètement en retard, ils n'arriveront rien à faire, etc. Et ce que c'est, ce qu'ils oublient, cette bande d'idiots, c'est que Google est une des rares boîtes au monde à avoir des centaines de millions d'utilisateurs chaque jour sur leurs produits, que ce soit Gmail, que ce soit le Search. Et donc, à partir du moment où on a un trafic comme ça, c'est juste un problème de conversion et d'expliquer le produit, de faire en sorte qu'il soit palpable à l'utilisateur au vulgus pecum, comme on dit. De manière à ce qu'ils se mettent à l'utiliser. Et je pense que c'est suffisamment similaire à Facebook pour que les gens essayent. Et à mon sens, comme tu le disais Patrick, le fait que tu puisses beaucoup plus facilement créer une espèce de ségrégation de tes cercles entre ta famille, tes collègues, etc., aussi bien ceux que tu vas suivre que à qui tu vas communiquer, que le produit est vraiment intéressant pour ça.
Mais alors, soyons clairs. Est-ce que Yann, par exemple, est-ce que tu vois la fameuse comment je l'avais appelée tante Edna dans mes articles sur l'iPad, la fameuse tante Edna qui représente Tati, je sais pas quoi, bref, qui représente Monsieur Tout le Monde, est-ce que tu vois les gens normaux aller sur Google Plus? Moi, franchement, j'ai des doutes, quoi. Ça reste un peu compliqué.
Ben, l'avantage de Google Plus, c'est que contrairement à un produit comme Wave, par exemple, c'est une plateforme transversale. Enfin, c'est Google Plus est vraiment une plateforme, c'est pas un produit. Donc, du coup, c'est quelque chose qui va apparaître, qui va se manifester de façon parallèle sur plusieurs produits Google, notamment sur google.com. Dès qu'on fait une recherche, on a le petit bouton plus 1. On va le voir se manifester sur YouTube, on va le voir se manifester dans Gmail. Donc il va apparaître un peu partout et je pense que monsieur et madame tout le monde va le découvrir vraiment petit à petit. Je pense qu'il va pas y avoir une masse de personnes qui vont brutalement créer un profil Google Plus, mais je pense que c'est voilà, ah tiens, il y a un nouveau bouton, qu'est-ce qu'il fait, clac, ah OK, d'accord, ou quelqu'un qui vous envoie un article qu'il a reçu via Spark, ouais, par exemple. Ah ben tiens, c'est quoi Spark? Ah ben tu devrais essayer, c'est vraiment pas mal, je reçois beaucoup de trucs de broderie avec Spark. Voilà, mais tu rigoles, mais tu soupçonnes pas le nombre de mamies qui se passent des trucs de broderie sur Internet. Et donc voilà quoi, je pense que ça va être petit à petit et plutôt que voilà quoi, un engouement, création de profils massifs.
Oui. Ah non, c'est sûr. Et puis les technophiles créent un effet d'entraînement souvent. Et puis à l'époque où Facebook s'est lancé, MySpace était le roi du monde. Et puis il y avait AOL qui était le prince de la terre il y a un certain temps. Et enfin, les choses peuvent changer. Ça ne veut pas dire qu'elles vont changer, mais ça peut changer. Entre parenthèses, j'interromps juste 2 secondes pour lire un commentaire de Dylan dans la chatroom qui nous dit avec force acuité intellectuelle que qu'est-ce qu'il nous dit ? Ça saute partout. Je pense que Google surfe sur la wave des réseaux sociaux pour faire le buzz autour de son produit. Je pense qu'il a tout à fait compris. Et entre parenthèses, Google, Google Plus effectivement n'a pas grand intérêt par lui-même tout seul aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que Google a investi pas mal d'argent dans Zynga par exemple, et est en négociation. On entend des rumeurs selon lesquelles il serait en négociation pour racheter Hulu, donc le service de vidéos à la demande très très important aux États-Unis, celui auquel se sont créés par toutes les grandes chaînes. Donc le jour où il y aura des choses à faire, déjà ça marche bien, mais le jour où il y aura en plus des choses à faire sur Google Plus, ça sera encore plus, enfin ça commencera à devenir intéressant à ce moment-là. Et je conclue, je vous redonne la parole après. Je conclue en disant que une énorme force de Google pour Google Plus, comme tu le disais, je sais plus Yann ou Jeff, c'est que il est entièrement intégré à l'écosystème Google et que pour ceux qui utilisent en fait, beaucoup de gens se demandent mais pourquoi est-ce que je devrais aller sur Google Plus plutôt que sur Facebook ? Et c'est une question tout à fait valide pour énormément de gens. Facebook est un mastodonte avec sans doute presque 700 millions d'utilisateurs mensuels. C'est un mastodonte et il y a une énorme partie des gens qui ne vont pas bouger pour le moment. Enfin, l'immense majorité, ils vont pas bouger, ou en tout cas pas pour le moment. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent déjà les services Google, comme tu le disais, et pour peu qu'ils se soient créés un compte Google Plus à un moment, et qu'ils aient commencé à suivre 2-3 personnes, ils ont un petit compteur en haut à droite de leur écran, qui leur dit le nombre de mises à jour qu'ils ont sur Google Plus, dès qu'ils sont sur un service Google, Gmail, Calendar, Document, etc. Et donc, ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'aller sur le site Google+. Dès que tu es sur n'importe quel service Google, tu as déjà tes informations Google+, qui t'incitent à aller voir de quoi il s'agit. Donc ça, c'est un énorme atout de Google pour moi. Et ça veut dire que les gens qui auront créé un compte Google+, auront beaucoup plus de facilité à y retourner que s'ils doivent aller sur le site Facebook. Et il n'est pas inimaginable que certaines personnes se mettent, au bout d'un certain temps, hein, quelques semaines, quelques mois, à aller de moins en moins sur le site Facebook et un petit peu plus, tu vois, leur compte Facebook existera toujours, mais ils oublieront d'y aller une fois, tu vois, dans une journée, puis 2 ou 3 jours, etc. Et ça ira peut-être petit à petit dans ce sens-là. Quelque chose à ajouter, Jeff, Yann?
Non, je pense que tu as complètement raison en confirmant ce que je disais. sur le fait que c'est complètement intégré dans... Non, mais l'écosystème Google, c'est énorme. Et donc, le fait que s'ils jouent bien leur jeu, ils peuvent, en gros, acquérir de façon virale des millions et des millions et des millions d'utilisateurs juste en les amenant, en fait, dans le service. Donc, je pense que ça, c'est un fait à ne pas oublier. Pour reprendre ta question sur est-ce que on utiliserait dans le cadre, par exemple, des familles, le partage d'informations dans les familles. Et à mon sens, la réponse est oui, puisque tu peux justement complètement limiter la communication, par exemple, le partage des photos à tous les gens de la famille. Tu mets leur adresse email, tu les mets sur un cercle famille, et tu peux créer donc une communication beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, ou si tu veux faire ça sur Facebook, tu peux pas. Si tu veux faire ça, en gros, nous, dans la famille...
C'est possible, mais c'est hyper compliqué.
C'est vachement compliqué, et aujourd'hui on utilise un Tumblr pour faire ça, et c'est vraiment une chiotte à gérer, quoi. Ouais. Et donc, je pense que sur ce modèle d'utilisation qui est comment je peux créer une espèce de cercle de gens avec qui je veux échanger des informations et rester avec une visibilité limitée à ce cercle, je pense que c'est vraiment intéressant.
Ouais. Oui, c'est certain. L'une des conséquences de ce concept de cercle qui est... Je suis certain que beaucoup de gens qui nous écoutent voient pas vraiment l'intérêt, mais... En l'utilisant, on comprend à quel point c'est différent de ce qui existe déjà, mais l'un des intérêts, c'est qu'on peut vraiment utiliser Google+ comme un outil privé,
comme un petit peu Facebook, si tant est que Facebook soit un outil privé, ou comme un outil public, c'est-à-dire comme Twitter. Et je parle pas forcément d'une question publique comme des gens qui ont une vie publique sur Internet, comme les animateurs de podcasts ou les blogueurs ou les gens comme ça, mais vraiment comme n'importe quel utilisateur. Parfois, il y a des choses qu'on veut dire à plein de gens, et parfois, il y a des choses qu'on veut dire à quelques personnes. Et sincèrement, aujourd'hui, Facebook ne permet pas de faire ça facilement, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui seront séduits par ça. Maintenant, il faut être honnête, et Google Plus a aujourd'hui pas mal de défauts. Notamment, les mises à jour sont très très bordéliques et donc ça remonte en permanence partout et c'est infernal à suivre parce que les mises à jour remontent dès que quelqu'un commente dessus et comme tous ces trucs avec commentaires sur les updates, comme tous les systèmes avec commentaires sur les updates, c'est très très difficile de savoir sur lesquels on a commenté et lesquels suivre et lesquels continuer à suivre. Donc ça, c'est un petit problème. Les cercles, aussi géniaux qu'ils soient, à mon sens, restent un petit peu trop compliqués pour le commun des mortels. Donc, l'avenir, si on parle un petit peu de l'avenir qu'on voit pour Google+, moi, dans les quelques mois à venir, j'imagine que les geeks, les technophiles vont adopter Google+, en parallèle des autres réseaux qui existent, et je vois tout à fait Google+ développer, on va dire, quelques dizaines de millions d'utilisateurs, ce qui est déjà un énorme succès d'ici la fin de l'année, quoi. Moi, ça me paraît pas du tout impossible. Et ça sera déjà un gros succès. Votre vision de l'avenir de Google+, peut-être Yann?
Faut voir. Ils sont bien partis, c'est ce que je dirais. Je rappellerai juste aussi, je dirais juste, parce qu'on en a pas eu le temps, de dire que Google Plus est disponible également sur Google Android. Donc c'est une énorme porte d'entrée. Il faut se souvenir quand même que Google fait la plateforme et aussi l'application. Donc du coup, contrairement à Facebook où c'est Apple qui fait l'iPhone et quelqu'un d'autre fait l'application Facebook, là tout est intégré, tout est pensé pour une utilisation simple. Donc encore une fois, ça va faciliter l'adoption. Donc je pense qu'ils sont vraiment très très bien partis. Maintenant, je ne pense pas que monsieur tout le monde va switcher sur Google Plus comme étant une alternative à Facebook. Je pense qu'ils vont plutôt l'adopter pour pouvoir échanger des photos ou suivre des news, des trucs comme ça. Et naturellement, après, voilà.
Mais c'était le cas aussi. Je me souviens à l'époque, même moi qui détestais MySpace, je l'ai appelé le fléau d'Internet pendant très longtemps. j'avais un profil MySpace parce que tout le monde était dessus. Puis au bout d'un moment, j'ai fini par aller sur Facebook et j'avais les deux en parallèle pendant longtemps et tout le monde faisait ça. Et au début, évidemment, peut-être que... Et d'ailleurs, pour pas qu'on nous dise à terme, Patrick a prévu le succès absolu de Google+. Il est tout à fait possible que Google+ fonctionne pendant quelques temps puis se casse la gueule. Hein. C'est juste qu'ils ont un bon début là. Moi, tu vois, maintenant, je dis plus rien. et entre parenthèses, il y aura aussi une application iOS qui va arriver bientôt selon Google. Jeff,
aller dans le process d'approbation par Apple.
Elle risque de prendre quelques mois à être approuvée.
Ah ouais, pourquoi? Le truc pour moi qui était intéressant, dans cet article qu'a écrit Steve Levy, c'est le fait de dire lorsqu'ils ont ouvert les portes de Google Plus aux employés de Google. En 12 heures, ils avaient 90% de Google sur la plateforme. Et c'est une adoption que... et en fait, en interne, les gens adorent ce qui a été fait. Et contrairement à Wave ou à Buzz, où en fait, ils ont essayé de l'utiliser. Et en gros, les mecs de Google sont sur Facebook, sont sur Twitter, et ils se cachent pas, en fait, de leur point de vue. Je pense qu'ils ont vraiment vu une implémentation dont ils étaient fiers. Effectivement, comme tu disais, il y a des défauts, mais bon, pour un truc qui a été développé en un an et qui est sorti il y a même pas quelques jours, je pense que c'est vraiment un très très bon début. En termes d'adoption, encore une fois, je pense que, enfin, n'oublie pas, la chose importante dans le monde du réseau social, c'est pas l'adoption, c'est la rétention. C'est-à-dire, effectivement, c'est bien d'avoir des centaines de millions d'utilisateurs, mais ce qu'il faut, c'est avoir un taux de visite journalier et mensuel de ces utilisateurs qui est super haut. Et Facebook, de ce côté-là, est absolument monstrueux, avec 65 rétentions journalières, un truc comme ça. Ce qui est aujourd'hui le problème de Twitter, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'utilisateurs sur Twitter, il y a énormément de trafic sur Twitter, mais il y a très peu de gens, en fait, qui génèrent la majorité du contenu.
Et donc, il y a beaucoup de gens qui créent un compte et qui reviennent presque jamais, quoi.
Et qui disent, je comprends pas ce truc et ça sert à rien. Donc, on va voir comment ça se développe. le fait que tu puisses intégrer de façon très naturelle, que ce soit le plus one, les search, le Gmail, donc je pense que plus ils raffinent l'intégration Gmail et Google+, plus ça va devenir intéressant.
Entre parenthèses, j'ai parlé de Google+ à ma copine et évidemment, j'aurais dû m'y attendre, mais sa réaction c'était « Mais pourquoi est-ce que je quitterais Facebook pour ce truc, quoi ?» Il y a rien qui me... Et oui, au début, enfin, aujourd'hui, il y a encore rien qui soit vraiment intéressant, faut bien l'avouer, mais... Enfin bref, bon, j'espère qu'on aura fait un summary, j'allais dire, un résumé assez clair de ce qu'est Google+. A priori, l'ouverture va se faire par phase, mais elle est déjà en train de commencer, donc ça sera disponible à de plus en plus de monde assez vite. Si on réussit à avoir des invitations, s'ils rétablissent le service d'invitation, en fait, ils l'avaient fait il y a 3 ou 4 jours, ils avaient ouvert les invitations, et ils ont dû le refermer en urgence parce qu'il y avait, il y a eu tellement d'invitations, il y a des gens qui en envoyaient, enfin, qui en envoyaient à des centaines de personnes parce que tout le monde en voulait, qu'ils ont été obligés de le refermer hyper vite. S'ils le rouvrent, je ferai mon possible pour essayer d'inviter autant d'auditeurs que possible. Mais bon, ça devrait arriver, soyez un petit peu patients. Ça, c'est en cours d'ouverture, a priori. Bah écoutez, avant de nous lancer dans la suite de l'émission, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de notre sponsor. Notre sponsor, vous le savez, notre premier sponsor, c'est Numéricable. Numéricable, c'est cette société de... Vous en avez peut-être entendu parler, ils font du câble, de l'internet, de la télé, tout ça. Et aujourd'hui, après qu'on ait passé une heure et demie à vous parler de Google+, je vais vous dire que Numéricable est sur Twitter. C'est-à-dire que Numéricable est un avant-gardiste. Alors... J'aimerais préciser une chose. On dit souvent que les Français sont un petit peu en retard sur tout ce qui est nouvelles technologies et tout ça. Eh ben justement, Numéricable, comme ça se fait quand même, ça commence à se faire un petit peu aux États-Unis. Il y a quelques sociétés qui le font en France, et Numéricable fait partie des sociétés qui pensent à comment améliorer leurs services. Et donc ils ont un compte sur Twitter qui fait pas seulement des annonces d'informations et d'actualités, etc. Ils en font bien sûr, mais ça sert aussi de service après-vente, enfin de d'aide et d'aide technique. C'est-à-dire que si vous suivez Numéricable, vous pouvez envoyer un tweet et ils vont être les informations vont être redirigées, que ce soit un problème technique ou administratif, ils vont être redirigés vers le service concerné et vous allez pouvoir obtenir de l'aide par ce biais. Ensuite, évidemment, ils vont vous prendre en charge. Tout va pas forcément se faire sur Twitter. S'ils peuvent vous aider sur Twitter, ça se fera comme ça. Sinon, il y aura sans doute d'autres procédures. Mais c'est un service qui est hyper efficace, qui est hyper simple, qui est hyper innovant. Et comme je le disais, c'est pas toujours le cas en France. Donc et qui est en plus accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, bon, peut-être qu'on n'est pas encore au niveau où Numéricable a besoin d'être sur Google+, qui est encore complètement fermé, mais il n'est pas impossible qu'ils arrivent là-bas aussi. En tout cas, vu qu'ils sont sur Twitter et qu'ils sont hyper actifs sur Twitter, on peut l'imaginer à l'avenir, et c'est déjà une chose hyper intéressante de la part de Numéricable qu'ils se lancent dans ce genre d'initiative. Donc, le compte, évidemment, c'est @Numéricable sur Twitter. Vous pouvez y aller, les suivre et avoir, comme je le disais, les informations, l'actualité et de l'aide technique et administrative. Donc c'est une initiative à souligner. Merci à notre sponsor Numéricable et merci à vous de nous soutenir en les soutenant. C'est un cercle vertueux tout ça. On enchaîne avec...
Sur Google+. Ah.
C'est un cercle Google+ vertueux. On enchaîne avec... Avec quoi ? Avec LulzSec sec qui a défrayé la chronique pendant les 50 derniers jours. Est-ce que vous savez ce qu'est LulzSec ? LulzSec Securities.
Bah c'est une bande de hackers, c'est ça, qui ont notamment fait tomber quelques services, des petits services, rien de bien méchant, la CIA, Nintendo, Sony, AT&T, bah c'est eux en fait qui
ont fait l'actualité. Le Sony original non, mais ils ont commencé après à s'attaquer aussi à Sony, ouais.
Voilà. Enfin, le gros gros hack d'origine, c'était pas eux, mais.
Ouais, effectivement. Bon, il y a quand même pas mal de gros noms sur leur CV.
Ah oui, oui,
et
ils
donc,
ont.
Et donc voilà quoi. Apparemment, enfin c'est pas apparemment, ils ont officiellement annoncé que qu'ils arrêtaient en fait, compte que leur groupe était. Alors je sais pas comment on traduit disband en anglais, en français.
Était.
Mais dissolu.
Dissous,
voilà.
Ouais.
Et donc voilà quoi, ils arrêtaient leur activité. En précisant que voilà quoi, qu'ils ont hacké toutes ces personnes parce que voilà, c'est juste parce qu'ils trouvaient ça fun et qu'ils ne pouvaient.
Oui, maintenant... ils avaient une politique, une philosophie assez intéressante, c'est que leur nom, LOLZ, évidemment, c'est enfin LULZ, ça vient de LOL, que tout le monde connaît, et leur idée, c'était vraiment on fait des hacks parce qu'on peut, comme tu disais, et parce que c'est marrant. Et c'est des mecs hyper efficaces, quoi, hyper précis, hyper importants et effrayants dans le domaine du hacking. Et quelques jours avant qu'ils ne dissolvent le groupe, on a appris qu'une personne avait été arrêtée, qui a été annoncée comme un des leaders de l'ULSEC. Évidemment, l'ULSEC a dit « mais
non,
c'est juste un petit gars qui a rien fait, le pauvre ». Et effectivement, a priori... c'était pas du tout un responsable, mais juste un gars qui gérait une chatroom de l'ULSEC. Mais quand même, à partir du moment où ça a été fait, ils ont dit « Ah, en fait, on avait dit qu'on faisait ça juste pour 50 jours. Ça y est, les 50 jours sont passés, donc on va s'arrêter. Ok, au revoir. » Je me demande s'ils ont pas quand même un petit peu flippé, parce que ils ont fait tellement d'énormes trucs que le FBI, la CIA, enfin, tout le monde était en train de leur courir après, quoi.
Ouais, il y a un peu de ça. Il y a aussi le fait que il y a quelques jours, ils avaient également annoncé qu'ils rejoignaient le groupe Anonymous, qui est également un très gros groupe de hacking, mais qui a des idéologies un petit peu plus nobles, qui s'attaquent plutôt au gouvernement pour un peu dans la lignée de WikiLeaks, hack les serveurs du gouvernement et d'autres grosses corporations pour rendre disponibles des informations permettant à tous de se protéger, quoi, révéler des mensonges, des grands scandales, et donc voilà. Et ils avaient décidé, LOLSEC et Anonymous, de s'associer, d'arrêter de jouer dans le bac à sable, mais de faire quelque chose d'un petit peu plus noble, même si voilà, c'est quand même pas super cool de le faire.
Mais en fait, LOLSEC faisait le chaos total, et quand ils ont dissous le groupe, certains, enfin une bonne partie, ont rejoint Anonymous, et c'est vrai qu'Anonymous, ils sont un petit peu plus militants, quoi. L'ULSEC, c'était... Enfin, moi, quand je voyais tous les hacks qui arrivaient les uns après les autres pendant ces derniers 50 jours, mais ça finissait par devenir hallucinant, quoi. C'était... Ils prenaient zéro otage, ils tiraient sur tout le monde, et de manière parfois assez violente, quoi. Parce que c'était pas juste des rigolos, quoi. C'était des mecs qui faisaient des trucs... la CIA, le Sénat, Nintendo, Sony, effectivement, enfin... Bon...
Ouais. Donc voilà. Après, il y a peut-être un problème de compatibilité au niveau des idéologies. Certaines personnes ont préféré ne peut-être pas rejoindre Anonymous et carrément dissoudre le groupe. Mais bon, ça n'a pas empêché le site de Mastercard de tomber quelques jours après. Donc
au nom des LOLs de l'ULSEC, leur esprit est toujours présent sur Internet, on va dire. Heureusement. D'ailleurs, l'ULSEC, je vous aime beaucoup, hein. Moi, j'adore ce que vous faites.
Franchement, bien.
Super cool. Jeff, un commentaire sur l'ULSEC ou pas de...
La NSC vient juste d'enregistrer le fait que vous avez supporté l'ULSEC, donc bravo.
Non, mais je veux dire, merde.
Parce que bon, les Gus, ils ont beau dire, ouais, on a fini, c'est bon, on arrête nos conneries. À mon avis, c'est pas de mal avec, on va arrêter de les chasser.
Ah non, c'est clair.
Soit pour les foutre en taule, soit pour les embaucher. parce que bon, c'est quand même des mecs qui sont très très bons. Mais il me semblait d'ailleurs que l'ULSEC initialement faisait partie d'Anonymous et qu'ils avaient quitté parce qu'ils trouvaient que Anonymous ne poussait pas le bouchon assez loin. Ou je me trompe?
Je crois pas qu'il faisait partie d'Anonymous, hein.
Il y a quelques semaines, quelques jours, ils parlaient de fusionner ensemble. Et je pense que maintenant, voilà, ceux qui n'adhéraient pas au mouvement un peu plus noble d'Anonymous ont décidé, voilà, quoi, de se casser. Et d'où ce petit truc, quoi.
Ouais, d'accord. Donc, bon, la saga LOLSEC était assez intéressante pendant l'été, et c'était quelque chose qui va marquer les esprits, quoi. Ils sont sortis de nulle part, ils ont causé un chaos total, et à vrai dire, on a même entendu que certains FAI,
en Australie, si je ne m'abuse, était en train de repenser à l'idée de d'implémenter des politiques, mais des règles un petit peu similaires à ce qu'on a avec avec Adopi, parce que ils se disaient on a un petit peu peur des groupes de hackers et des conséquences que ça pourrait avoir. Donc et en plus de ça, évidemment, je pense que de plus en plus de gens sont très préoccupés par la sécurité, alors qu'ils ne l'étaient pas avant, à cause de gens comme LulzSec, quoi. Ils ont eu un impact sur le monde des technologies, et là je parle de l'informatique hardcore, hein, le IT, qui est non négligeable. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à faire sur eux et à se dire, oula, ils sont en train de shooter partout, il vaudrait peut-être mieux qu'on mette à jour ces logiciels qui traînent, enfin ces serveurs qui traînent dans un coin depuis des semaines et des mois, et qu'on ne met pas à jour. Bon bah maintenant on va peut-être le faire. Bref, côté positif et négatif des activités de tous ces gens-là, et on peut être sûr que c'est pas terminé. Il faudra qu'on parle des conséquences et des implications éthiques de tout ça un jour. Mais ce dont on va parler maintenant, c'est un truc qui va faire plaisir à certains. Je parlais de fanboy au début de l'émission par rapport à l'émission spéciale du mois dernier, pardon, au dernier épisode. Je voudrais parler d'une énorme bourde, entre guillemets, de Apple. Et là, on a quelques haters qui se réjouissent. Oh mon Dieu, j'ai réveillé Yann démoniaque, Evil Yann.
Ouais, ben apparemment, Evil Yann est réveillé. Oui, apparemment, ils se sont un petit peu plantés avec la dernière version de Final Cut Pro, qui, je le rappelle, est l'outil de montage vidéo phare présent sur la plateforme d'Apple, qui permet donc de préparer participer à la conception des films.
On l'utilise et qui a d'ailleurs révolutionné le monde il y a quelques années quand les premières versions sont sorties. À l'époque, il y avait que du Avid et un premier vieillissant déjà. À l'époque, ça a été une révolution, tout le monde s'y est mis, et là, il vieillissait beaucoup.
Ouais. Oui, oui, oui. Et donc, on en était à la version 7, et là, ils ont sorti la version X ou 10, je ne sais pas vraiment comment on prononce.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Et apparemment, c'est une pure catastrophe. Beaucoup de professionnels, donc dans le monde de la vidéo, critiquent beaucoup cette version qu'ils considèrent tant comme un super iMovie, qui est le petit logiciel amateur qu'on trouve sur la plateforme d'Apple. Ben, ils trouvent que finalement, ce nouveau Final Cut Pro est juste une version améliorée de ce petit logiciel amateur. Et donc, pour de la super production, pour faire du montage de films, c'est tout simplement inutilisable. Il y a énormément de fonctionnalités présentes dans la version précédente qui ne sont plus présentes dans cette version 10. Donc ça fait un tollé phénoménal sur Internet. Les gens sont en train de gueuler, en train de demander comment faire pour récupérer telle ou telle fonctionnalité. Et quand on écoute d'un petit peu plus près, les professionnels, tout ce qu'ils demandaient, c'était qu'on règle les bugs qu'il y avait dans la version précédente, éventuellement une version 64 bits, mais ils demandaient pas grand-chose. Ils étaient très contents quand même de la version précédente, vieillissante certes, mais qui restait quand même très compétitive et supérieure pour beaucoup par rapport à ce que fait la concurrence, notamment Adobe avec Premiere, je crois. Donc voilà quoi. Vraiment, vraiment une énorme déception de la part des professionnels de la vidéo.
C'est sûr que ça a gueulé de partout. Entre parenthèses, Adobe a proposé une réduction à tous les utilisateurs de Final Cut Pro, une réduction sur Premiere. Ils ont pas été les derniers à sauter sur l'occasion. Moitié prix. Ça peut être intéressant.
Ah bah ouais, bah, faut y aller. Hein.
Oui, c'est sûr que le Final Cut Pro X était censé tout reprendre de zéro, et ils ont tellement tout repris de zéro avec des bases tellement différentes que du coup plus personne ne s'y retrouve. Et c'est vrai qu'il y a des, ouais, ils sont restés à zéro. Et il y a des gens qui ne retrouvent pas des, enfin par exemple des trucs tout bêtes, mais l'édition multicaméra, l'importation de projet Final Cut Pro 7 n'est pas possible, c'est-à-dire que vous pouvez pas utiliser les projets que vous utilisiez avant sur le X. Évidemment, on peut continuer à utiliser le 7, mais ce que disent les défenseurs d'Apple, c'est que il fallait repartir de zéro
pour repartir sur des bases saines, parce que tu peux pas toujours améliorer et rajouter des trucs jusqu'à la fin des temps. Au final, ça devient trop lourd, trop gros, trop. Et il y a une partie de vrai dans ce domaine.
C'est complètement faux. Dans le monde de la programmation, bien souvent, quand tu arrives sur un nouveau projet, la nouvelle équipe regarde le code du truc d'avant et dit mais c'est quoi cette merde ? Il y a pas moyen que je continue de bosser là-dessus. Je refais tout depuis zéro. Donc c'est très très commun, mais faut pas se planter.
C'est sûr. Là, et là, ils se sont clairement énormément plantés. Et ce que disent d'autres, qui à mon avis ont peut-être un petit peu de justesse dans leur analyse, c'est que en fait, Apple ne s'intéresse pas plus, en tout cas énormément, au marché des professionnels, parce que il va y avoir quelques milliers de personnes qui vont payer, je sais pas, $900 pour un gros logiciel professionnel. Final Cut Pro X est à $300 seulement entre guillemets, donc c'est semi-professionnel et Apple fait beaucoup plus dans le consommateur final, dans le consumer.
Dans le Angry Bird, en fait.
Hein. C'est un petit peu ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, finalement, ils ont un petit peu planté un couteau dans le dos des éditeurs, des monteurs professionnels, en se disant, bah, désolé, les gars, nous, votre marché, entre guillemets, nous intéresse plus. On va se diriger vers des semi-pros. On va leur proposer un produit facile à utiliser, extrêmement puissant, parce que, bon, il est quand même puissant, mais qui correspondra plus à vos demandes. Alors évidemment, sans le dire, parce qu'il voulait pas il voulait pas l'annoncer comme ça, mais c'est une autre piste. Jeff, Mr. Apple Fanboy, comme tu as été baptisé par les auditeurs de l'émission, est-ce que tu peux trouver dans ton cœur la force de défendre Apple, ou est-ce qu'ils ont vraiment planté leur coup là?
Bip, bip, bip. Non, effectivement, je suis pas du tout un utilisateur de Final Cut, mais clairement, j'ai pas mal de copains qui sont aussi des fanboys et qui utilisent le produit, qui disent que c'est là, une des pires merdes que Apple ait jamais sorti, quoi.
D'accord. Bon, bah au moins c'est clair.
Je
pense que le monde est unanime, effectivement. On a beau chercher
Final
des explications.
Un pote à Jeff.
Pardon ? Quoi ?
Final Cut, c'est un pote à Jeff sur la chatroom. J'aime beaucoup ça.
Comme le dit mon ami Final Cut. oui, non, mais c'est clairement un gros désastre. En tout cas, au niveau de l'image et très certainement au niveau des fonctionnalités aussi, parce que tout le monde se sent trahi, quoi. Donc voilà, de temps en temps, il y a Apple qui fait un truc. Enfin, c'est même pas de temps en temps, ça arrive régulièrement. Apple se plante complètement. Et là, c'était suffisamment retentissant pour qu'on en parle un petit peu longuement. Autre chose dont je voulais parler aussi. Et Jeff, si t'as plus beaucoup de temps, tu nous dis, hein. N'hésite pas. Ok. Entre parenthèses, il mute le son, il met silence parce que il y a sa petite famille qui mange à côté. Donc c'est pour ça, c'est le 4 juillet, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les ans, c'est pareil. Donc, autre news dont je voulais parler. Vous vous souvenez de Bitcoin, dont j'ai parlé une ou deux fois dans les épisodes précédents, qui est un truc monnaie virtuelle, intraquable, intraçable, qui a le potentiel de révolutionner la finance internationale. J'exagère à peine. Mais bon, j'en avais parlé, vous vous en souvenez. Eh ben, il y a eu les premiers malwares, donc les premiers logiciels qui s'intègrent à votre ordinateur de manière malicieuse et evil, comme Yann Kiri, et qui essaye de vous voler vos bitcoins. Et ça a fait, enfin, c'est quand même un petit événement dont je voulais parler, parce que c'est suffisamment important. Bitcoin est devenu suffisamment important pour que les mafias du malware s'y intéressent. Donc,
les mafias du malware, ça se trouve, c'est un pauvre étudiant qui a fait ça comme projet deux semaines, c'est bon, quoi. Mais, ouais, effectivement, il y a un malware qui est sorti qui avait pour unique but de cibler les machines Windows, d'utilisateurs qui avaient des bitcoins sur leur système. Donc, qui allaient tout simplement chercher sur votre disque dur où se trouvait votre portefeuille à bitcoin, les volaient, les envoyaient par email sur un serveur polonais ou je sais plus où, au créateur du virus. Donc, voilà, quoi, un malware bête et méchant. J'avais jamais eu l'occasion de le dire, mais enfin dans le podcast, mais je trouve que c'est vraiment la pire idée qui soit d'investir dans ce truc de Bitcoin. C'est autant écrire son numéro de carte bleue dans un fichier Notepad et laisser sur son bureau. Enfin, aujourd'hui, avec le niveau de sécurité qu'on a sur nos PC, c'est-à-dire quasiment rien. c'est une hérésie, quoi, de mettre $500 en bitcoin sur son disque dur. C'est n'importe quoi, quoi. Donc voilà, je voulais juste le préciser.
Jeff, est-ce que tu as téléchargé le Bitcoin Miner et est-ce que tu fais tourner tous les serveurs de toutes tes sociétés pour miner des bitcoins?
Bah voyons, non.
D'accord. Autre chose, la controverse de Google Doodle pour la fête des pères, c'est un truc dont je voulais vous poser la question, enfin je voulais vous en parler, vous poser la question. Il y a eu, au moment de la fête des pères, Google qui a fait un doodle, son petit signe logo Google spécial pour les différentes occasions, en l'occurrence c'était pour la fête des pères, et ils ont envoyé des rappels par le calendrier ou par Gmail, je sais plus, qui disaient n'oubliez pas d'appeler votre papa, même si vous l'appelez par, enfin que vous l'appeliez par le téléphone ou par Google Voice ou par quoi que ce soit, n'oubliez pas d'appeler votre papa, j'allais dire votre caca. Et en fait, ça a provoqué une sorte de tollé chez certains, hein, pas chez tout le monde, mais ça a provoqué une sorte de tollé, particulièrement aux États-Unis, parce qu'il y a des gens qui ont dit « Oui, bon, voilà, je viens de perdre mon père ou j'ai perdu mon père il y a quelque temps et j'avais pas besoin que Google vienne me rappeler « N'oubliez pas d'appeler votre papa qui voilà. pense à vous et machin. » Bon, alors, la question que je voulais vous poser... C'est facile de se dire oh là là c'est bon ça va quoi. Mais
oh là là est-ce que... c'est bon ça va quoi.
Mais est-ce que c'est le rôle de Google, enfin est-ce que c'est pas un petit peu une invasion de votre vie privée s'il vous envoie sur votre calendrier privé un message disant n'oubliez pas d'appeler votre papa?
Non, c'est juste de la. Enfin, personnellement, je trouve que c'est de la pure bêtise d'en vouloir Google pour ça. C'est un script qui est automatisé. Voilà, c'est la fête des pères. Ben, on vous le rappelle. Et puis bon, ben désolé. La prochaine fois, on va rajouter un champ dans Google Plus pour vous demander si votre père est toujours parmi nous. Et puis comme ça, on vous enverra pas la notification. C'est bon. Voilà, je comprends l'état émotionnel dans lequel se trouve la personne qui a reçu ça. Bon, si elle a perdu son père, c'est bien dommage. Mais bon, c'est voilà. Faut pas en vouloir par rapport à ça. Sinon, on n'en voit plus rien.
D'accord. Bon, donc toi, t'es pas choqué.
Non, du
Jeff, toi qui es américanisé depuis quelques années déjà, peut-être que tu es suffisamment puritain pour que ça te dérange un peu plus.
Non, parce que c'est... Enfin, je pense que Yann l'a bien dit. C'est dommage pour les gens qui ont perdu leur père, mais en l'occurrence, c'est l'utilitaire que Google a voulu offrir à ses utilisateurs. C'est assez courant que on rappelle aux gens « faites des pères, faites des mères » sur Twitter, sur Facebook, etc. Et là, en l'occurrence, ce que les gens ont mal pris, c'est le fait que ça atterrisse directement dans leur inbox ou dans leur calendrier. Mais bon, faut pas déconner, quoi. C'est pas... Quand on dit Google et quand on associe Google avec des problèmes de privacy, ça c'en est pas, faut pas pousser, quoi.
Oui, c'est pas faux. Ouais. Effectivement, il y a des problèmes de vie privée, données privées qui sont bien plus importants que cela. J'ai espéré commencer une petite polémique, mais visiblement vous êtes bien trop raisonnable pour ça.
Et puis la prochaine fois que tu m'appelles puritain, je te colle un bourre-pif. Hein.
Mais c'est l'influence américaine, encore que t'es chez ces libéraux de Californiens, donc ça compte pas.
Comment
les nouveaux top level domains, un truc intéressant. Peut-être que Yann peut nous en parler ou je le ferai.
Bah écoute, c'est quelque chose que j'ai lu vraiment très rapidement en travers.
D'accord.
Donc je soupçonne que tu vas reprendre le micro très rapidement, mais d'ailleurs peut-être que tu vas le faire dès maintenant.
D'accord. Bah en fait, les top level domains, c'est un truc dont on avait parlé il y a quelques temps déjà. Les top level domains, c'est les noms de domaine, enfin la partie des noms de domaine qui sont à la fin des adresses web, des URL, c'est-à-dire .com, .fr, .tv, .net, etc. Et l'ICANN qui est en charge d'organiser toutes ces choses-là, tous ces noms de domaine, est en train d'introduire un nouveau type de nom de domaine qui n'est pas un seul nouveau type, parce qu'aujourd'hui tous les pays ont un nom, un top level domain, donc le .fr, .us, .com, etc. Il y en a certains qui sont pas seulement pour les pays, mais par exemple pour les organismes d'éducation, c'est .edu, pour les organisations, c'est .org, etc. Eh ben, ils veulent en introduire de nouveaux, qui coûtent très très cher, mais qui sont un petit peu libres, entre guillemets. Quand je dis très très cher, c'est quelque chose comme 200 000 dollars à peu près pour envoyer une demande. Et ce que ça donnera, c'est qu'en fait, vous pouvez choisir votre propre nom de domaine. C'est-à-dire que, par exemple, Yann, au hasard, tu pourrais créer un nom de domaine .yann. C'est-à-dire que tu pourrais avoir bonjour.yann et ça serait ton adresse.
Ou, ouais, parce que si j'avais 200 000 dollars, je t'assure que c'est pas ça que je ferais avec. Et pourquoi pas?
Non, bon, évidemment, c'est pas pour les personnes individuelles, hein, c'est pour les sociétés. On pourrait imaginer, par exemple, je sais pas, en prenant une société au hasard, Canon, je crois que c'est l'exemple que j'avais pris il y a un ou deux ans quand on avait parlé du projet. Canon, il pourrait y avoir photo.canon. Et ça serait l'adresse, et ça serait beaucoup plus simple, tu vois, à organiser que www.canon.com/fr/machin, etc. Là, ça serait photo.canon ou télé. Bon, Canon ne fait pas des télé, c'est pas un bon exemple. Mais .sony, par exemple. PlayStation.sony, télé.sony, photo.sony, etc. Bon, j'essaye d'être enthousiaste, mais à vrai dire, je suis pas certain que ça nous change la vie, quoi.
Mais je suis pas certain non plus.
Les candidatures sont de maintenant à en gros début 2012 et on aura les premiers domaines après ça. D'ici quelques, c'est pas pour tout de suite, mais ça pose des questions intéressantes sur les trademarks, enfin bon, bref, ça va commencer à arriver. Moi, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça risque de provoquer d'une part des conflits sur les trademarks et d'autre part des sites de spammers et de ça va être encore plus facile pour les gens qui veulent créer des trucs un petit peu bizarres et nous embrouiller, on sait pas trop d'où ça vient et où ça va, pour mettre des adresses dont on saura plus
ce qu'elles
sont.
Ouais, mais bon, à 200 000 dollars le nom de domaine, je pense qu'ils ont intérêt à pas rater leur coup, hein, parce que...
Ah, mais attends, il va y avoir des sociétés, enfin, je dis russes parce qu'il y a beaucoup de trucs comme bizarres qui se passent aussi, mais...
Tu vas avoir des problèmes, toi.
Les Chinois aussi, hein.
Pardon?
Alors, le NSA, c'est quoi les services secrets russes déjà? Rappelle-moi.
J'ai oublié les nouveaux. Mais bon, bref, oui. Donc, eux, ils sont gentils. Mais, non, mais enfin, bref, tu vois, il est tout à fait possible d'imaginer une société qui s'appelle Superhost, qui fait son domaine .superhost. Et puis, bon, OK, on pourra toujours quand même voir si c'est un nom de domaine qu'on connaît pas trop et qui est pas celui qu'on pense. Mais si tu vois, par exemple, il y a un truc qui fait canon. Je sais pas, moi, Superhost. Bon, on saura toujours que c'est Superhost, donc on saura que c'est pas le vrai Canon. Ok, d'accord, j'ai rien dit.
Ce qu'on peut espérer, c'est que l'ICANN aura quand même un ensemble de règles très claires pour ne pas, pour que ce soit pas le bordel. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la restriction qui existe sur les GTLDs, donc les TLD globales, ont quand même permis d'avoir une certaine cohérence dans la façon dont les choses sont appelées. Le fait que beaucoup de pays aient commencé à louer en fait leur extension comme .li ou des choses comme ça, ou .co, donc la Colombie, ça a commencé à créer des débordements. Et c'est vrai que si on commence à avoir 9000 TLD global créés par an, on va plus s'y retrouver, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est sûr. Bon.
On peut faire l'extension LRDV. Parce que Patrick, avec nos watch, fera suffisamment d'argent pour se payer l'RDV.
Faudra en vendre beaucoup des t-shirts. Hein.
Non, mais on était à Comic-Con Paris d'ailleurs. Alors, j'en ai même pas parlé. On était à Comic-Con Paris. C'était super sympa. Merci à tous ceux qui sont passés. Moi, j'étais le samedi. C'était hyper marrant. On a fait quelques émissions en live et on a vendu quelques t-shirts. Donc, je pense qu'on a bien une petite fraction des 200 000 dollars nécessaires.
La première
grâce à vous. Ouais, encore, disons que les quelques premiers pixels de la première lettre. Bon, on va passer à nos news et rumeurs, mais avant ça, justement, quand on parle de t-shirts, j'aimerais parler très rapidement de notre deuxième sponsor qui est la boutique No Watch. Et oui, vous le savez, No Watch est un organisme qui fait aussi du t-shirt. On fait pas que du podcast, monsieur. Mais nos t-shirts, ils ont un avantage énorme sur nos podcasts, c'est que vous pouvez vous les mettre sur le dos et ils vous protègent du froid et un petit peu du soleil et un petit peu du froid, enfin un petit peu des deux. Bref, il y a sur la boutique No Watch plus de 140 articles, des t-shirts, des goodies aux couleurs des émissions No Watch, qu'elles soient TV, FM ou The Lab. Il y a un énorme éventail de prix. Plus les objets sont chers, bah plus ça nous aide, hein, évidemment. C'est un moyen pour vous d'obtenir quelque chose en nous filant un coup de main. Donc double effet, j'allais dire Kiss Cool, mais double effet boutique No Watch. Donc ça vous, nous donne une petite contribution. Et il y a des objets d'une, enfin des t-shirts et d'autres choses, hein, je vous dis pas quoi, vous découvrirez, d'une très bonne qualité qui résiste au lavage nombreux et multiples. Et pour accéder à la boutique No Watch, c'est très simple, vous allez sur le site nowatch.net, il y a une bannière pour la boutique, vous cliquez dessus et là vous découvrez cette sorte de caverne d'Ali Baba textile et vous êtes émerveillé et je suis sûr qu'il y aura des choses qui vous plairont là-dedans.
Et j'ai vérifié, il y a même les strings.
Il y a quelques sous-vêtements aux couleurs de certains podcasts, notamment un upload avec un petit symbole de rechargement qui est designé par Monsieur Jérôme Kainborg. Donc allez faire un tour, il y a des trucs sympas, il y a des trucs marrants, il y en a un petit peu pour tous les goûts. On vous encourage à y aller, c'est la boutique No Watch, merci à eux. Et on va conclure avec nos news et rumeurs sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement que sur les news longues comme on vient de le faire. Première chose...
Et c'est là que je vais gentiment me retirer pour repartir sur le 4 juillet. Donc merci à tous. Amusez-vous bien sur Google+, quand vous aurez un accès, ce qui, j'en suis sûr, ne saurait tarder. Et je vous dis au mois prochain.
Merci beaucoup d'avoir été là, Jeff, @Jeff sur Twitter. Bon amusement pour le 4 juillet.
Et Jeff Clavier sur Google+, maintenant.
Et Jeff Clavier sur Google+.
À très bientôt.
Salut. Ciao, Jeff. Merci.
Salut.
Donc, Jeff nous quitte, mais nous continuons vaillamment pendant encore, on va dire, un petit quart d'heure pour les news et rumeurs. Et la conclusion, évidemment. Entre parenthèses, on n'a pas reçu de statosphère de Guillaume.
Bon. Oh mon Dieu.
Oui, c'est tristoun. Donc, Jeff nous a quitté. Je vais raccrocher, voilà c'est fait. Et j'enchaîne avec les news et rumeurs. Première, Facebook nous annonce un truc génial pour ce mercredi. Donc on enregistre le lundi, ça sera 2 jours après l'enregistrement. Alors les gens ont commenté sur le fait qu'ils annonçaient ça, enfin qu'ils faisaient cette annonce d'annonce juste après la sortie de Google+. Moi je dirais, bon c'est pas forcément prévu comme ça déjà à la seconde, donc c'était déjà prévu à l'avance je pense, mais le truc génial annoncé par Zuckerberg, on a déjà des indications, en tout cas des rumeurs sur ce que ça pourrait être, peut-être une intégration Skype dont on avait déjà parlé, une intégration Spotify dont on avait déjà parlé, une application iPad qui a été en rumeur il y a une dizaine de jours, ça serait peut-être pas la peine d'en faire tout un événement, et peut-être une app photo, une application photo spécifique pour iPhone et peut-être Android, qui serait peut-être pas la peine d'en faire tout un événement non plus. Donc voilà, on spécule. Toi Yann, tu penses que ça sera quoi?
Ah moi je dirais pour Skype.
Ouais, peut-être. Ouais, moi je verrais bien Spotify entrer sur le marché
non,
américain
parce
Spotify
que...
et
ah, bon. Tu penses qu'ils utiliseraient, enfin qu'ils profiteraient de leur partenariat avec Facebook pour annoncer leur arrivée sur le territoire américain? Ouais, je sais pas. Je sais qu'ils ont fait des progrès, mais de là à sortir comme ça, là, bah ce serait génial, puisque là je suis un peu dans la merde avec Spotify Canada.
Ah non, mais attends, c'est le marché américain. Le marché canadien, c'est encore autre chose.
Ah, c'est vrai. C'est vrai.
Bon. Autre news rapide, Apple et Samsung se mettent sur la figure comme c'est pas permis. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement des histoires de procès, de gens qui, enfin, de sociétés qui accusent d'autres sociétés d'avoir utilisé leurs brevets sans leurs accords, etc., etc. Et généralement, j'aime pas trop en parler parce que, comment dire? Il y en a tellement et ça mène généralement tellement à rien, ouais, que bon, j'évite de trop en parler quoi. Voilà, c'est un petit peu une perte de temps à mon sens. Mais là, c'est en train d'aller tellement loin, ça fait des semaines que cette histoire court et c'est en train d'aller tellement loin que c'est au moins la peine d'en parler rapidement parce que c'est un petit peu la guerre nucléaire des combats de brevets quoi. Apple a demandé, enfin à l'origine Apple avait demandé, Samsung disait que les téléphones Apple copiaient les interfaces de leurs très vieux téléphones d'il y a longtemps. Apple a dit « Ah mais non, mais vos nouveaux téléphones copient les interfaces de nos téléphones. » Et Samsung a dit « Ah ouais, mais non, mais ça va pas du tout, c'est vous qui dit copier. » Apple a dit « On veut voir vos derniers prototypes. » Les prototypes avaient été annoncés. Ils ont dit « On veut voir vos derniers prototypes parce que vous les avez annoncés et ils nous ont l'air de copier encore sur nos dernières machines. » Samsung est revenu à la charge en disant « Ah ouais, c'est comme ça, ben nous on veut voir vos prototypes d'iPhone 5 et d'iPad 3. » Cela n'ayant pas été annoncé, bien sûr, ça n'a pas été accordé. Apple est ensuite revenu en demandant, enfin je sais plus, je crois que c'est Samsung ou Apple, enfin l'un des deux, qui a demandé à ce que les produits soient interdits de vente sur les territoires américains parce qu'ils provoquent une confusion chez les utilisateurs qui savent pas lequel est lequel. Bon, si l'interface est vraiment très similaire, ça peut peut-être se comprendre, mais enfin vraiment, bon. Et là, on est en train d'arriver à des extrêmes de ce genre-là, genre interdiction de vente sur le territoire. Et c'est enfin, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Ça se trouve, dans une semaine, ils vont trouver un accord. Il y en a un qui va payer les brevets de l'autre. Mais la dernière étape qu'on a vue maintenant, c'est que il semblerait qu'Apple soit en train de s'éloigner de Samsung pour la fourniture de ses composants pour ses machines. C'est-à-dire, les iPads et les iPhones intègrent des composants, de la mémoire notamment, qui est livrée par Samsung. Et Apple est en train d'aller voir ailleurs s'ils peuvent pas avoir ces composants-là. Et ça commence à avoir des conséquences énormes. Ça veut dire que Samsung se dit sans doute qu'ils peuvent abandonner cette partie de leur business pour se concentrer sur le business des téléphones et des tablettes. Donc, bref, c'est dans le domaine des procès et des procès sur les brevets, c'est un petit peu ce qu'on a vu de plus gros depuis un moment. Donc, je voulais en toucher un petit mot. C'est la guerre nucléaire entre Apple et Samsung. Autre nouvelle sur les appareils mobiles, entre guillemets, le HP Touchpad a été lancé début juillet. Et la plupart des reviews étaient plutôt tièdes. En fait, je pense que ça va faire un petit peu pleurer Cédric Monet, qui est un grand fan de WebOS. Vous vous souvenez, l'OS de Palm, qui avait été intégré au pré et que HP a récupéré quand ils ont racheté Palm, qu'ils ont désormais intégré au pré 3 et à ce fameux HP Touchpad. Eh ben, même les gens, enfin, bon, moi, certains me trouvent super fanboy Apple, donc peut-être que mon avis ne vaut pas, et d'ailleurs je l'ai pas essayé, donc j'ai pas d'avis, mais beaucoup de journalistes très sérieux voulaient l'aimer, mais l'ont trouvé tiédasse. Le matériel était pas de suffisamment bonne qualité. Le logiciel, l'OS à l'intérieur était pas parfait non plus. Donc, bon, un petit peu décevant, et je suis sûr que Cédric versera une petite larme.
Je sais pas, moi j'ai eu l'occasion de le tester rapidement l'autre jour, juste à côté du BlackBerry Playbook, et c'est vrai que bizarrement je trouvais que le BlackBerry s'en sortait bien mieux. Le touchpad, je l'ai trouvé vraiment très très proche de finalement ce qu'il y avait sur mon WebOS, parce que moi j'avais le Palm Pre, ouais. Et j'ai trouvé qu'ils ont pas suffisamment innové. J'ai trouvé qu'il arrivait trop tard comme tablette. Ouais. C'est une belle tentative, mais pour le coup, même si c'était pas le sujet, le Playbook, j'ai trouvé que c'était vraiment une tablette extraordinaire, d'une fluidité identique à celle qu'on voyait dans les pubs. Avant, on a toujours l'impression que ce sont des trucs qui sont montés sur Final Cut ou je sais pas, mais c'est vraiment de cette fluidité, c'est vraiment très très fluide, bien pensé, bien ergonomique et tout. Donc je craquerais peut-être pour un Playbook, et j'encourage vraiment nos auditeurs qui se posent la question pour une tablette, regarder quand même ce que fait BlackBerry à ce niveau-là, parce que c'est vraiment pas mal.
Entre parenthèses, Dylan qui fait encore une bonne blague, qui dit www.patrickbeja.apple. Je ne trouve pas ça drôle. tu sais que les RIM, donc le fabricant du Playbook et des BlackBerry en général, est un petit peu dans une situation délicate en ce moment, parce qu'il y a eu la presse a appelé le jam memo, donc une lettre ouverte d'un employé de RIM qui a écrit une sorte de requête, de supplique aux dirigeants de RIM pour leur dire, mais vous vous rendez pas compte comme les choses vont pas chez nous, quoi, on a la tête dans le sable, moi j'adore cette société dans laquelle je travaille, mais on peut pas avancer, on peut pas faire des projets innovants, on est tellement dans le lit des opérateurs de téléphonie qu'on sort des produits quand eux ils nous le demandent et ils sont pas finis et donc on massacre notre image. La tête de RIM est gérée par deux personnes en même temps, deux co-présidents, et ça marche pas du tout. S'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît, changez quelque chose, j'aimerais tellement innover avec RIM, cette société que j'aime tellement, etc. RIM a répondu avec il était anonyme, donc RIM a répondu genre alors on sait pas qui a écrit ça, donc de toute façon nous on a des impératifs parce qu'on a une société et on a énormément grossi ces 5 dernières années, blablabla. Et le mec disait mais arrêtons de nous voiler la face en disant qu'Apple ne fait rien de bien. Il y a au moins des choses, certaines choses qui font bien, des choses que nos concurrents font bien. Faut regarder ce qu'ils font, quoi. Il y a des dirigeants qui s'enorgueillissent de ne même pas connaître ce que fait la concurrence. C'est ridicule. Et après la réponse de RIM, la réponse officielle, il y a eu une série d'autres employés qui ont envoyé des messages qui disent en gros la même chose. Et ça dépeint une image de RIM qui est encore plus inquiétante que ce qu'on avait vu, quoi. Et d'ailleurs, il y a une commission d'enquête, entre guillemets, qui a été instituée chez RIM pour voir les choses qui vont, les choses qui vont pas. Le problème, c'est que cette commission d'enquête va mettre un rapport aux dirigeants qui sont déjà en place. Donc, forcément. Enfin bon, donc RIM, ouais, il y a eu des choses qui se sont passées la semaine dernière et c'était assez. Enfin, moi, ça m'a fait un petit peu mal au cœur parce que le mec, tu voyais qu'il aimait vraiment cette. Et en dehors du fait que. Je le répète régulièrement, il y a des gens qui me croient à moitié parce que bon, quand ils ont une idée, ils ont une idée et on peut pas leur en faire changer, quoi. Mais moi, je suis complètement pour l'innovation. On a parlé de Google pendant 3/4 d'heure aujourd'hui parce qu'ils avaient fait un truc Apple. Super intéressant. Non, mais moi, j'adore Google, quoi. Enfin, j'adore les gens qui me proposent des trucs qui m'excitent. Et là, en l'occurrence, Google Plus, c'est hyper excitant. J'en parle pendant des heures. Wave, j'en ai parlé pendant longtemps. Android, enfin, Google I.O., on avait fait presque tout un épisode là-dessus. Enfin, tu vois. Et en l'occurrence, quand je vois une société aussi qui a eu un moment de grandeur aussi important que RIM, qui avait ses appareils partout et qui était le roi du monde à un moment, qui est en train de se laisser dépérir comme ça, et d'entendre un employé de cette société dire peut-être que beaucoup de gens ont vécu dans leur société en même temps, tu vois, ils se disent ah mais la lourdeur de la boîte dans laquelle je bosse nous empêche de faire des choses vraiment innovantes, d'être aussi agile qu'on devrait l'être pour réagir à la concurrence. Et le type qui disait ça, c'était un petit peu prenant, quoi. Donc oui, pardon, dans la chatroom on me dit excitant, attention aux traductions de l'anglais, ça peut prêter à confusion. Non, mais excitant, je suis désolé, ça peut vouloir dire aussi je suis excité par un projet, quoi. C'est vous qui avez un esprit dans la chatroom un petit peu mal placé, les gars. Excitant, c'est un truc, c'est pas que sexuel, je suis désolé. Pour ce coup-là. Bon, bref, donc voilà, RIM, c'est un petit peu triste, quoi. Autre news, le pape envoie son premier tweet.
Non.
Excitant, non? Non, mais je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais recherchez la vidéo, le premier tweet du pape. Moi, je l'avais vu sur vipad.fr. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le truc. Un truc du genre. Pardon?
Des paperies.
Ouais, un truc genre béni soit le Seigneur et que Jésus-Christ vous bénisse, vous. Enfin, un truc gentil, quoi, hein, bien sûr, c'est son premier.
Un truc du genre, ça déchire Google Plus ou un truc comme ça. Ça aurait été marrant.
Ça aurait été excellent, ça, effectivement. Bah, ceci dit, il y a un groupe de hackers qui a hacké le compte de la grande chaîne américaine, le compte Twitter de la grande chaîne américaine Fox News, et qui a annoncé avec 4 ou 5 tweets différents la mort d'Obama, Obama assassiné, sur le compte de la chaîne en question. Évidemment, ça a fait beaucoup de bruit. Un hacker qui hackerait le compte du pape, le compte du Vatican d'ailleurs, c'est pas le compte du pape, qui dirait Google Plus ça déchire, ça serait une belle opération marketing.
Ben ouais.
Mais par contre, ce qui était intéressant aussi, bon, le pape, il fait le pape, hein, il est un petit peu vieux, il comprend pas trop ce qui se passe, et on lui dit alors voilà, appuyez ici, appuyez là, mais il l'a fait avec un iPad. C'est quand même marrant que le pape.
Les touches sont plus grosses.
C'est plus facile à utiliser. En même temps, je me suis dit ah mais donc ça veut dire que l'iPad c'est hyper simple à utiliser. Il est chez lui genre Bon, j'allais dire... Bon, il est chez lui dans son lit, plutôt. dans son lit, et il est sur l'iPad. Non, mais parce que le pape, c'est un homme avant tout, quoi. Enfin, avant tout, non, pas avant tout. Je suis désolé.
Allez, enchaîne.
Dire, le pape, il peut utiliser un iPad. Ce que je voulais dire, c'est que le pape, il peut utiliser un iPad comme tout le monde. Mais en fait, tu le vois dans la vidéo, il arrive à son bureau et on lui dit exactement où appuyer. Donc, a priori, il sait pas utiliser l'iPad, quoi. Il a juste appuyé là où on lui a dit qu'il fallait appuyer. Donc, voilà, bref. Allez voir la vidéo, c'est intéressant. Dropbox panique. Peut-être la dernière chose dont je voulais parler. Non, il y a encore plein de choses. Bon, Dropbox panique. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Enfin, pas plein de gens. Deux ou trois personnes qui m'ont envoyé des messages sur Twitter en me disant oh, regardez, Dropbox a mis à jour ses conditions d'utilisation et ils peuvent utiliser nos fichiers qu'on met chez eux pour faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent les revendre, machin. Non, c'est pas du tout le cas. Ils ont mis à jour leurs conditions d'utilisation comme tout le monde devrait le faire pour être très clair sur ce qu'ils font. Et ils ont besoin d'avoir notre autorisation pour manipuler les fichiers quand on leur demande de les déplacer ou de les rendre publics ou etc. Et c'est uniquement sur ça qu'ils ont changé leurs conditions d'utilisation. Dropbox va pas se mettre à vendre les photos de vos vacances que vous mettez sur leur service. Donc voilà. Et je continue à recommander Dropbox qui est un service excellent. On a gagné, Elian. Le spam a été réduit de 82% en un an. C'est incroyable. Bon, voilà, petite nouvelle en passant, c'est cool. Ça veut pas dire que ça va durer. Les restrictions de tarifs pour les abonnements sur iOS, vous vous souvenez, ça avait fait beaucoup de foin. Eh ben, Apple a fini par plier et il a levé les restrictions selon lesquelles il fallait absolument avoir le même prix dans l'application sur iPad ou iPhone et en dehors de l'application sur votre site web ou etc. Donc, victoire pour les éditeurs de contenu avec abonnement. Autre chose dont on voudrait parler, non?
Le Yann, 3, tu vois un truc? Tiens, le 3.
Le 3, PS, tiens, par exemple.
La PS Vita, Nintendo Wii U, t'en penses quoi? Ou je vais peut-être commencer, puisque t'as beaucoup parlé.
Ouais.
Bah oui, effectivement, alors je pense que 99,9% des auditeurs en ont déjà entendu parler, mais oui, voilà, ça a été la grande messe du jeu vidéo à Los Angeles, où Nintendo, Microsoft et Sony ont pu afficher leurs derniers produits, et notamment Sony avec la PS Vita, donc la remplaçante de la PSP. Honnêtement, c'est le produit qui m'excite le plus. Franchement, j'ai trouvé que c'était clairement la console qui tirait le mieux son épingle du jeu. Parce que ça faisait bizarre de voir finalement un iPhone avec des graphismes tout simplement phénoménaux, c'était sublime. Le fait de voir Uncharted sur un iPhone, puisque c'est vraiment l'impression que j'ai eue de voir la personne manipuler l'écran avec ses doigts, mais de voir un vrai jeu pour le coup derrière, ça m'a vraiment mis dans tous mes états. Donc voilà, je trouve que c'est une console extraordinaire. La Nintendo Wii U.
Mais attends, avant que tu passes à la Wii U, j'ai quand même, parce que moi je suis assez excité par cette.
C'est un podcast vraiment très excitant, dis-moi.
Mais non, mais c'est du coup ils m'ont mis le doute dans la chatroom. Mais on peut utiliser, excité comme ça. Je suis enthousiasmé par la PS Vita, mais en même temps quand je m'arrête un petit peu pour réfléchir, je me dis que la PSP à l'origine, c'était un petit peu le même type de promesse, quoi. C'était une console hyper puissante avec un écran magnifique et des contrôles vraiment efficaces qui nous promettaient d'avoir les jeux qu'on avait à la maison, mais en mobilité. Et puis finalement, moi, je l'ai acheté, hein, mais je l'ai eu pendant, je sais pas, un an. J'ai joué à Lumines pendant quelques mois dessus et puis finalement, elle a fini par prendre la poussière. Et donc, je me demande en quoi est-ce que la PS Vita changera?
Elle est 3G, c'est ça la différence.
Ah d'accord.
Ah bah oui, elle est 3G, donc du coup votre PS Vita, vous l'avez dans votre sac ou n'importe où, vous avez envie de vous faire exactement le même mode de consommation que l'iPhone, c'est que même si vous n'avez pas le jeu sur vous, ben vous la sortez et vous téléchargez un Angry Birds, vous téléchargez un Tiny Wings de la même façon que vous le feriez sur un iPhone.
Et pourquoi je le ferai pas sur mon iPhone?
Parce que sur la PS Vita, les graphismes sont nettement mieux, les jeux sont beaucoup plus poussés, bien plus évolués. C'est le jour et la nuit. Tu peux pas comparer visuellement un jeu iPhone et un jeu PSP ou même PS Vita.
C'est comme le dit Nicolas Nix, donc il va falloir ajouter encore un abonnement 3G.
Bah écoute, c'est à eux de nous sortir un truc intéressant, mais pour le coup, ouais, moi je pour le coup, je suis même prêt à payer un abonnement 3G supplémentaire pour cette console. Ça ne fait absolument aucun doute pour moi.
Ok, donc ça, et de l'autre côté, il y avait l'autre annonce, c'était la Wii U.
Je pense qu'ils vont se planter avec la Wii U.
Ah oui.
Je pense que, enfin,
alors explique déjà ce que c'est pour le cas où il y en a deux trois qui savent pas ce que c'est.
Donc la Wii U, c'est la nouvelle console de Nintendo qui va prendre la relève de la Wii. Et donc en fait, ce qu'ils essayent de faire avec cette console, je vous prie de m'excuser, ma femme vient de rentrer, donc vous aurez peut-être des bruits de fond. Mais ce que Nintendo essaie de faire avec cette nouvelle console, c'est de regagner le cœur des hardcore gamers qui avaient délaissé. Enfin, la Nintendo Wii, c'est la seule console que j'ai achetée et que j'ai revendue parce que elle ne collait tout simplement pas à mon profil d'hardcore gamer. Moi, j'adore les jeux complexes où on voit vraiment que le fait de d'y passer des mois, ça finit par payer et on développe une certaine expertise dans le jeu. J'avais pas du tout cette sensation avec la Wii. Donc ils ont essayé de réintégrer ça avec la Wii U, avec une manette, pour le coup, qui se rapproche beaucoup plus des manettes auxquelles les vrais joueurs sont habitués, avec des boutons, avec une croix, avec des sticks. Et au milieu de cette manette qui pour le coup ressemble vraiment à un iPad, vous avez un écran, donc c'est comme si vous aviez finalement une très grosse manette PlayStation avec au milieu un écran tactile dans lequel vous avez également la possibilité de jouer. Donc vous jouez normalement sur votre écran de télévision, mais vous appuyez sur un simple bouton parce que votre femme peut regarder Les Feux de l'amour, je ne sais trop quoi. À ce moment-là, vous pouvez demander à la Nintendo Wii U de transférer le jeu, d'envoyer plutôt l'image du jeu directement sur la manette et vous continuez de jouer comme ça pendant qu'elle regarde Les Feux de l'amour.
Ouais. Donc et ce qu'il faut dire, c'est que la manette en elle-même n'a pas, enfin l'écran, le truc qui est un écran, la manette n'a pas de processeur à l'intérieur. L'image est calculée par la console elle-même et elle est envoyée à la manette, mais c'est toujours la console qui calcule cette image.
Un peu comme on live en fait, c'est un mini on live chez soi. Donc effectivement le jeu est envoyé et streamé vers la manette. Alors je disais que je pense qu'ils vont se planter avec cette console. Je vais temporiser un petit peu ce que je voulais dire par là, c'est que je ne pense pas qu'ils vont rencontrer le succès colossal qu'ils avaient eu avec la Wii. Je pense pas qu'ils vont réitérer cet exercice avec la Wii U parce que du coup la manette est trop complexe pour Madame Michu et les jeux trop encore.
Mais la Wiimote marche toujours avec.
Oui, mais je pense qu'ils vont orienter leurs titres pour tirer un maximum de profit de cette nouvelle manette. Et j'ai l'impression que les titres, ça reste très toujours Lapin Crétin, toujours les mêmes marques. Mais j'ai l'impression que les Electronic Arts, les Ubisoft et tout ça, les producteurs de jeux vraiment hardcore sont restés fidèles quand même à Sony et à Microsoft. Et donc, j'ai pas l'impression de voir les grosses licences que j'adore sur ces plateformes. Donc, on verra, mais j'ai l'impression que, voilà.
T'es pas convaincu.
Ça va pas, voilà, je suis pas convaincu. Et toi?
D'accord. Écoute, comme toi, la Wii, moi j'en ai même pas acheté, disons que j'ai jamais été vraiment convaincu. La Wii U, il y a des trucs, l'idée pourrait être vaguement intéressante, genre le fait, je crois qu'il y a qu'une seule manette qui peut avoir l'écran avec la console. Elle peut pas calculer l'image pour 5 manettes différentes par exemple. Il y a l'idée d'avoir quelqu'un, une personne parmi tous les joueurs qui a son écran à lui, peut-être que ça peut provoquer des nouveau type de jeu qui pourrait être intéressant où il y a une personne qui voit d'autres choses que tous les autres, mais bon, très sincèrement, je suis pas hyper convaincu non plus, mais j'attends de voir.
Voilà.
Ok, et écoute, je crois que ça nous amène vers la fin de l'émission. Comme je le disais, on n'a pas de statosphère aujourd'hui, donc on va se contenter. Est-ce qu'on a des commentaires sur iTunes, tiens? Yann, peux-tu nous dire où on peut te retrouver sur Internet pendant que je cherche s'il y a des commentaires sur iTunes? Parce que je suis un tout petit peu pas préparé.
D'accord, alors je vais essayer d'aller le plus lentement possible par rapport à la question que tu viens tout juste à l'instant de me poser. Donc, concernant l'endroit où on peut me retrouver...
Attends, je crois qu'en fait j'ai trouvé les commentaires. Donc
Twitter.com/yanallez, voilà.
Alors, Exclusive Fab nous met 5 étoiles et nous dit, je les prends comme ils viennent, hein. Salut les gars, pour vous dire que j'ai trouvé cet épisode vraiment très intéressant. J'ai aimé vos débats et vos avis très pertinents. Continue comme ça, Fabrice. Merci. Tu vois, je le prends au hasard là. Et voilà, il dit qu'on est pertinent, donc je suis obligé de le croire.
Bah, c'est gentil, ça fait plaisir. Des fois, on se pose des questions, donc.
Oui, on se.
C'est gentil.
Oui. Comme vous l'aurez entendu, si vous avez écouté, moi, je suis quelqu'un de très
très
de
excité
moins... aussi. Benjamin Dewael nous dit fanboy du spécial fanboy anthologique, le numéro 63 m'a fait bondir, réagir, pester, applaudir, rire et même pleurer de rire. Cet épisode est presque hors ligne éditoriale du rendez-vous tech, c'est vrai, et aurait pu augurer d'un futur no watch.psy. ce que j'aime dans nos commentateurs, c'est qu'ils me font marrer aussi. Blague à part, j'ai écouté vos réflexions et vos propos avec beaucoup d'intérêt. J'espère qu'il dit pas de bêtises parce que je le lis d'une traite là. Oula, mais c'est un commentaire immense. Je vais juste lire la prochaine phrase. Et vos propos avec beaucoup d'intérêt, car cette question anime la quasi-totalité de vos poditeurs. Cela m'a permis de vous connaître davantage et de mieux comprendre avec le recul les points de vue que vous avez exprimés dans tous les podcasts de No Watch. Et il met aussi sa conclusion au débat. Merci à lui. Dernière lecture de Frédéric André, qui nous dit du lourd, un podcast, un dur, un vrai, un tatoué. Merci à Frédéric. Je suis d'accord avec ton estimation.
J'aime bien sa définition podcast. Du dur, tu sais. Hein. Si t'es pas tatoué, t'es pas un dur.
Ah, mais c'est clair, attends. Je vous montre pas mes tatouages, moi, mais je pourrais, ça vous étonnerait. Donc ça, c'était les commentaires iTunes. Si vous voulez nous filer un petit coup de main sur cette plateforme qui reste l'un des moyens principaux de découvrir des podcasts, eh ben, vous pouvez aller donc sur iTunes, aller sur la page du Rendez-vous Tech, et nous laisser un commentaire là-bas, ça nous file toujours un petit coup de main et ça nous fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi aller sur le site nowatch.net lui-même, vous y trouverez le blog de l'émission, donc les articles pour chaque émission sur lesquels vous pouvez venir commenter et discuter. On a à chaque fois des discussions très intéressantes avec les auditeurs, donc vous pouvez venir participer forcément. Et à part ça, vous pouvez aussi, en passant, trouver d'autres podcasts. Je sais pas pourquoi je fais. Mais bon, bref, c'est pour animer la diction. Vous pouvez trouver d'autres podcasts sur le site nowatch.net qui vous plairont très certainement. Notamment, on va en prendre un au hasard. Ça tourne, le podcast de Vivian qui parle avec ses amis de. Oh mais merde, je suis bête. Je dis le podcast ça tourne et il rentre en fin de saison en fait. Donc, mais bon, il y en a quand même encore un si je ne m'abuse. Le podcast de Vivian et de ses amis qui parle de cinéma et donc ça tourne est un podcast que je recommande comme tous les autres qui sont sur le portail No Watch. Et entre parenthèses, nous on ne rentre jamais en fin de saison, enfin on ne fait jamais de pause. Depuis des années que je fais du podcast, j'ai jamais pris de vacances, monsieur. Je suis toujours là pour vous informer et vous divertir. On me dit que je suis inaudible. Est-ce vrai?
Ben écoute, moi je t'entends très bien sur Skype. Je vois effectivement que les gens D'accord. le disent sur la
bon,
chatroom.
J'espère que c'est pas dans l'enregistrement de l'émission, sinon ah, ça va
être un petit peu embêtant.
Si tu m'entends, c'est l'essentiel. Désolé les gars. Donc voilà, de toute façon c'est la fin de l'émission. Je vous remercie tous d'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur patrickbeja.com et je dis Patrick Béja et non pas notre Patrick sur Twitter parce que sur Patrick Béja il y a toutes les adresses de tous mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et attention, lequel je vais dire?
Google Plus.
Mais non, Flickr.
Ah.
Mais oui, Google Plus aussi. Voilà, donc patrickbeja.com et pas MySpace comme le dit Nicolas Nick. C'est fini MySpace. Stop. Bref, merci à tous d'avoir écouté. Merci à Yann et à Jeff d'avoir participé. Merci à la chatroom d'avoir commenté. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission du Rendez-vous Tech. Bis à tous et à très vite. Ciao, ciao.